à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Information en ce mardi 26 mars. Un homme de 32 ans de Wanoué devra faire face à la justice pour une affaire de stupéfiants. Ça fait suite à une perquisition menée par le service de police de Témiscaming First Nation et les policiers et enquêteurs de la Sûreté du Québec du poste principal de la MRC de Témiscamingue le 20 mars dernier. Au total, les policiers ont saisi du cannabis illicite, de la cocaïne, de la wax, l'huile de cannabis illicite, du cannabis illicite sous forme comestible, 21 une arme à feu, deux armes prohibées sous forme de points américains, du matériel servant à la vente de stupéfiants et de l'argent canadien. L'individu a été arrêté et libéré. Il devra revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. La campagne de financement pour le projet de maison régionale d'hébergement en cancérologie est lancée. C'est sous le thème « Soigner chez nous » que la Fondation Santé Rouyn-Noranda, en collaboration avec ses partenaires, a procédé au lancement de cette campagne qui fait appel à la générosité de la communauté. Il s'agit d'une étape cruciale dans ce projet novateur qui vise à offrir un soutien essentiel aux patients du Centre régional de radio-oncologie et à leurs familles dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Madame Stéphanie Thuotte, directrice générale de la Fondation Santé Rouyn-Noranda, nous résume le projet.
Le projet, c'est la mise sur pied d'une maison d'hébergement qui va accueillir les gens en traitement, en radiothérapie, aussi en traitement de chimiothérapie. En fait, quand on a un traitement concomitant, là, chimio, radiothérapie, on va être traité à Rouyn-Noranda. Donc, toute cette clientèle-là traitée au centre de radio-onco. Et on va plus loin dans notre projet. En plus de l'hébergement, on met sur pied aussi un centre multiservice qui va regrouper tous les organismes qui gravitent autour du cancer en Abitibi-Témiscamingue.
Il s'agit d'un projet de 10 millions de dollars.
Donc, à ce jour, on a plus de 5 millions d'accumulés sur l'objectif de 10, d'amasser confirmé, et on lâche pas. Mais là, aujourd'hui, on lance grand public pour aller chercher des dons dans les entreprises. Tu sais, on a approché des grandes, grandes entreprises de ce monde. Là, on est rendu à l'autre niveau pour atteindre notre 10 millions.
L'organisme Mission Tournesol contribue également à la campagne en sollicitant le milieu témiscamien. Le docteur Paul-Émile Barbeau nous parle de l'importance de ce projet.
Il faut se rappeler que les traitements en radio-oncologie, c'est à tous les jours, pendant plusieurs semaines. Ce qui fait que la maison d'hébergement est vraiment quelque chose qui est une nécessité. L'autre chose que je tiens aussi à souligner, la campagne est étalée sur 5 ans, mais pour ceux qui vont nous recevoir bientôt quand on va aller cogner à la porte, commencez déjà à réfléchir comment vous pouvez donner plus en l'étalant sur 5 ans. Je pense que ça, c'est super important.
Le docteur Barbeau se dit satisfait de la réponse des Témiscamiens jusqu'à maintenant.
Actuellement, on a franchi l'étape du million amassé au Témiscamingue. Les entreprises et les fondations qu'on a rejoints ont compris la nécessité de ce projet-là et on a eu une réponse qui dépassait vraiment nos attentes. Alors, on est très fiers. Les entrepreneurs et les fondations de notre région sont à l'image de notre population. Ils sont généreux.
La MRC de Témiscamingue investit également dans le projet. Madame Claire Bolduc, préfète du Témiscamingue, explique pourquoi.
La première fois où le projet a été soumis, présenté au comité qui fait l'analyse de tous les projets, de toutes les demandes de financement, la présentation, c'était on demande 100 000 $ pour pouvoir accompagner les Témiscamiens et Témiscamiennes qui ont besoin d'hébergement lorsqu'ils reçoivent des soins en radio-oncologie. Le comité a dit non, 100 000, c'est pas suffisant, on va en donner 150 000. Parce qu'on est très conscient au comité que c'est notre population qui utilisera le plus le centre d'hébergement en radio-oncologie. Le comité en a fait la recommandation au conseil qui a accepté sans aucune hésitation de financer, d'accorder un financement de 150 000 $.
Les travaux de construction devraient débuter d'ici quelques semaines et l'ouverture de la maison régional de cancérologie est prévu en 2025. Pour faire un don ou pour en savoir davantage sur la campagne, visitez le site Internet de la Fondation Santé Rouyn-Noranda au soignezchezchez-nous.ca. Un projet pilote d'acquisition de connaissances au réservoir Kipawa est en cours depuis cet hiver. Monsieur Martin Bélanger, biologiste en faune aquatique à la Direction de la gestion de la faune du ministère de l'Environnement, fait un retour sur ce projet.
Le but, c'est vraiment d'identifier les espèces de poissons qui peuvent être pêchées en période hivernale dans certains secteurs du réservoir Kipawa. Donc, faut se rappeler là, que depuis la mise en place du plan de gestion du Touladi provincial en 2014, les lacs qui supportent une population de Touladi, la pêche hivernale est interdite au Touladi et puis pour la majorité des plans d'eau au Québec, aussi aux autres espèces là, sur ces plans d'eau-là. Cette année, là, on a mis en place un projet d'acquisition de connaissances, étant donné qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de citoyens puis des municipalités là, qui souhaiteraient après le retour de la pêche hivernale au réservoir Kitawa.
Ce sont 35 pêcheurs bénévoles qui prennent part à ce projet. En raison de la météo de cet hiver et le faible couvert de glace sur le réservoir, il est possible que le projet revienne l'année prochaine si les données ne sont pas concluantes.
Étant donné que la pêche hivernale se termine en fin de semaine, le 31 mars, ben, les pêcheurs bénévoles qui font partie du projet ont à compléter un carnet du pêcheur avec l'ensemble des captures qu'ils ont faites. Ils doivent identifier le secteur qu'ils ont pêché, le nombre de lignes qui ont été utilisées, le nombre d'heures qu'ils ont pêché. Puis à partir de ces données-là, les carnets vont m'être envoyés dans les semaines qui suivent. Puis on va analyser les données qui ont été récoltées pour voir quelle espèce qui est possible de capturer en période hivernale dans certains secteurs. Est-ce que c'est du touladi, est-ce que c'est du doré, est-ce que c'est du brochet. Donc à partir de ce moment-là, là, nous, au ministère, on va pouvoir regarder ça. Puis la raison pour laquelle la pêche hivernale est interdite, c'est parce que le touladi sur les lacs du territoire libre en province, la majorité des populations n'est plus en équilibre, donc est en mauvais état. Donc c'est pour cette raison-là là, que ces modalités d'interdiction de pêche hivernale-là ont été mises en place. Puis nous, ben, au réservoir Kipawa, ben, le réservoir ne fait pas exception. Là, la population de Touladi est en grande difficulté depuis plusieurs années. Puis ben, on veut s'assurer qu'on pourrait concilier la pêche hivernale avec la protection du Touladi. On regarde avec les données là, qu'on a récoltées cet hiver. Là. Il y a 4 secteurs qui font partie du projet. Donc la baie d'Orval qui est dans le coin de l'Aniel, la baie Macadam, puis la baie de Kipawa et puis la baie Mango.
Monsieur Bélanger donne plus d'informations quant à un retour de la pêche blanche sur le réservoir Kipawa.
Il est beaucoup trop tôt là, pour l'instant pour répondre à cette question-là parce que, comme je vous disais, on n'a pas les données en main. Pour les prochaines années, ce qu'il faut s'attendre, c'est au statu quo. Donc, on va maintenir les modalités réglementaires qui sont en place. Le ministère aussi, là, pour aider au rétablissement de la population de Touladi, on fait des travaux annuellement là, de repeuplement qu'on appelle. Donc, on fait des ensemencements de Touladi annuellement. On a des modalités de taille spécifiques qui ont été mises en place au réservoir Kipawa pour essayer de donner un coup de pousse à la population de Touladi. Néanmoins, on va analyser les données qu'on a récupérées avec le projet de pilote d'acquisition de connaissances. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, s'il y a moyen de concilier la pêche hivernale avec la conservation du Touladi. Mais une chose est certaine, c'est que la pêche hivernale au Touladi ne sera pas permise à court terme. Là, s'il y a quelque chose qui pourrait être permis, ça serait aux autres espèces. Mais encore là, faut-il là, qu'on n'ait pas trop d'impact sur la population de Touladi du réservoir Kipawa.
Et 7 communautés Anishinaabe sont présentes sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et plusieurs de ces gens ont recours aux soins de santé et de services sociaux offerts par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue dans l'objectif de favoriser l'accès aux soins et services. 2 ressources d'accompagnement appelées navigateurs de services ou agents de liaison sont maintenant affectées au Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Sainte-Terre ainsi qu'à l'hôpital de Ville-Marie. Le mandat de ces ressources consiste à soutenir et accompagner les personnes autochtones et ou d'expression anglaise dans leur parcours de soins afin de favoriser la compréhension mutuelle des informations échangées. Monsieur Keith McHugh occupe ce poste au 6 de Ville-Marie.
Pour accompagner pour les personnes avec ces rendez-vous, vous êtes à l'hôpital pour faire des traductions entre les employés de l'hôpital ici puis les gens qui parlent anglais ou les autochtones. J'ai fait aussi des services pour les cartes d'assurance maladie, aussi pour renouveler.
Soutien et accompagnement, développement d'un lien de confiance, rôle conseil auprès des professionnels et collaboration avec les partenaires du milieu font partie du quotidien de M. McHugh qui a appliqué pour ce poste. Il peut être rejoint au 819-629-2420 poste 4120 ou sur son cellulaire au 873-998-3548. Ça complète votre bulletin d'information régional. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.